Actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités du 16 octobre 2017. Hélène Denis qui vous parle et en manchette aujourd'hui, la loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées attendue au printemps. Cannabis comestible des entrepreneurs voit grand en Estrie, des lieux municipaux maintenant plus accessibles et une canne blanche électronique pour les personnes non-voyantes. En entrevue, j'accueillerai Simon Caron, agent de défense de droit pour le dossier Habitation chez Execo, et également Raymond Gouin, directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées. La loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées attendue au printemps, c'est dans l'actualité.com. Le ministre responsable de la toute première loi fédérale sur l'accessibilité indique que celle-ci sera dévoilée d'ici le printemps prochain et profitera non seulement aux personnes vivant avec un handicap, mais aussi à leurs aidants. Kent Hare a expliqué, ou explique plutôt, que l'échéancier a été modifié depuis qu'il a repris le portefeuille des sports et des personnes handicapées à la ministre Carla Called True lors du récent remaniement ministériel. La loi, grandement attendue par la communauté handicapée canadienne, devait initialement être dévoilée à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Le ministre Hare dit être au fait des consultations précédentes et avoir l'intention de mettre l'accent sur les enjeux qui ont alors été identifiés comme prioritaires, comme le haut taux de chômage des personnes handicapées ainsi que l'accessibilité des services et des établissements fédéraux. Il souligne que sa propre expérience en tant que quadriplégique le rend aussi soucieux du sort des aidants. Le ministre Hare, qui se déplace en fauteuil roulant depuis qu'il a été blessé par une balle perdue il y a 27 ans, n'a pas voulu préciser la nature des dispositions destinées à soutenir les aidants. Il a toutefois exposé que la loi s'inscrira dans une approche globale visant à anéantir les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de participer pleinement à la société. Les usagers des centres d'hébergement et de soins de longue durée pourront bientôt installer des caméras de surveillance dans leurs chambres et ce, à l'insu des dirigeants de l'établissement et des employés qui y travaillent. Le gouvernement du Québec vient de rendre public son projet de règlement visant à encadrer la pratique. Les usagers et leurs familles devront respecter certaines règles. L'installation de caméras devra se faire dans le but d'assurer la sécurité de l'usager ou de s'assurer de la qualité des soins. L'identité des personnes qui se retrouvent sur ces images devra être protégée, sauf en cas de dénonciation. Les enregistrements devront être détruits une fois leur utilisation terminée. Les comités des usagers applaudissent ce projet de règlement qui respecte l'essentiel de leurs revendications. Nous, on demandait que ce soit l'usager lui-même qui décide, le résident qui décide de mettre une caméra dans sa chambre, parce qu'un CHSLD, c'est une résidence de la personne et chez soi, on peut faire ce qu'on veut. Souligne Pierre Blain, le directeur général du regroupement provincial des comités des usagers. Le règlement sur les caméras de surveillance devrait entrer en vigueur d'ici la fin de l'année. Alors, je reçois en studio Simon Caron, agent de défense de droit pour le dossier Habitation chez Execo. Plusieurs groupes, à l'appel d'Execo, se sont mobilisés sur la place Vauquelin de l'Hôtel de Ville de Montréal pour réclamer un infologement. C'était à la fin du mois de septembre. Et avant de parler de cet événement et de logement précisément, avec vous, M. Caron, d'abord, bonjour.
Bonjour.
Quels sont les services offerts par Execo?
Execo, avant tout, c'est un organisme en défense des droits. Hein. Donc, ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à soutenir les citoyens en situation de handicap dans leur démarche pour faire valoir leurs droits de façon individuelle, mais surtout collective. Et on offre aussi un service ou une banque de préposés, en fait, pour les gens, par exemple, qui ont le chèque emploi-service. Donc, on offre ce service-là pour mettre en lien préposés et gestionnaires, en fait, du chèque emploi-service. Alors voilà, c'est un peu nos services. On est dans les dossiers de défense de droits. On est autant en transport, en habitation, santé, services sociaux et en accessibilité universelle, bien sûr, qui est au centre, en fait, de toute la philosophie chez Execo.
Vous ratissez large. Alors, si on s'en tenait à l'habitation pour aujourd'hui, parce que je suis certaine que vous allez revenir, on va vous réinviter.
Absolument.
Quels sont les problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap à la recherche d'un logement?
Bien, actuellement, l'information est extrêmement difficile à avoir parce que il n'y a aucun espace centralisé et bien connu hein, où les propriétaires, les locataires en fait, de logements accessibles, adaptés ou adaptables peuvent afficher leurs logements qui sont libres. Donc actuellement, chercher un logement, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Évidemment, sur les ressources, disons plutôt standards, bien, il est difficile de savoir si le logement est accessible, est adaptable et tout ça. Et au niveau de la recherche, souvent les personnes sont contraintes de mettre leur nom, en fait, sur des listes de logements sociaux, évidemment, on pense au HLM. On peut penser aussi aux listes que tiennent les comités logements, par exemple, pour les nouvelles coopératives. Même chose pour les OBNL. Et donc, c'est vraiment un cauchemar de trouver un logement et aussi la personne qui cherche le logement est un peu dépossédée de son autonomie puisqu'elle doit se mettre sur des listes, se mettre en attente hein, plutôt qu'être en action. Et ça, c'est un problème qui, évidemment, que les personnes vivent, mais c'est aussi un problème que les intervenants vivent nous-mêmes. Nous n'avons pas l'information. On doit faire des pieds et des mains pour savoir quel nouveau projet arrive à Montréal. Est-ce qu'il va y avoir du logement adapté et comment est-ce qu'on peut publiciser ce logement-là?
Pourquoi c'est comme ça?
Bien, c'est comme ça, en fait, depuis très longtemps. Hein, le gouvernement du Québec en a parlé, a énoncé ce problème et l'urgence d'agir en 1978, déjà.
C'est un problème. On va fêter le 40e anniversaire.
Oui.
On va pas fêter.
Mais... Oui, on va le commémorer, en
oui,
tout cas.
Oui, c'est ça.
Oui, c'est un problème qui est là depuis longtemps. Et donc, il n'y a pas eu de mesure, aucune initiative publique. Il y a eu des initiatives, il y a eu une initiative, en fait, au niveau citoyen, si vous voulez, puis au niveau du communautaire. Il y a le site maintenant qui s'appelle onroule.org qui existe, donc, pour offrir ce service-là. Le problème, c'est qu'onroule.org, ben c'est bâti sur du bénévolat. Hein? Il n'y a aucun financement régulier qui est donné à ce site. Donc, le site ne peut pas développer, par exemple, toutes ces caractéristiques qui seraient extrêmement importantes à développer au niveau de l'accessibilité universelle. Et au niveau, du suivi de tout ce qui est fait, bien, évidemment, du bénévolat, bien, c'est pas...
Pas l'idéal.
C'est pas l'idéal.
Bien, c'est sûr que vous comptez sur des bénévoles, mais ça vous prend de l'argent aussi là, pour que ça soit constant, que les choses qui se développent restent permanentes. Qu'est-ce que vous demandez exactement à l'administration municipale?
Bien, nous, on croit en fait que la Ville de Montréal, maintenant qu'elle a le statut de métropole et qu'elle a acquis des pouvoirs accrus en habitation, Donc, il est temps qu'elle prenne cette responsabilité-là. On croit aussi que par différents programmes comme le supplément au loyer ou le programme d'adaptation de domicile, qui est géré par l'OMHM, donc l'Office d'habitation de Montréal, la Ville a accès déjà à un grand nombre, à une liste de références de logements qu'on sait déjà adaptés ou accessibles. Donc, il faut mettre à profit ces informations-là, ces nouveaux pouvoirs-là. Et donc, ce qu'on demande, en fait, c'est que la Ville finance ou mettre en place un espace web, donc centralisé, où les locataires vont pouvoir s'afficher et où les locataires vont pouvoir trouver un logement bien adapté et bien situé.
Il me semble que c'est tellement simple.
C'est extrêmement simple et c'est peu coûteux. C'est toute la question. En fait, il y a quand même plusieurs millions de dollars à travers les années qui ont été dépensés pour adapter des logements. Et ils sont actuellement, plusieurs sont occupés par des gens qui n'ont pas d'handicap ou encore on voit des adaptations qui sont détruites parce que les locataires ne trouvent pas de personnes en situation de handicap pour être locataire. C'est une situation qui est ridicule et on parle là, d'un 80 à peut-être 100 000 annuellement pour faire rouler un tel site et le développer.
Est-ce que les partis en lice pour les élections se sont prononcés? Est-ce qu'ils se sont exprimés là-dessus?
Je vous dirais qu'à ce niveau-là, on est plutôt heureux parce que si on retourne il y a à peine un an, c'était complètement fermé. Maintenant, Projet Montréal a mis dans sa plateforme donc un engagement à ce niveau-là, donc de mettre en place ou de financer un tel site. Pour ce qui est de l'équipe CODER, le 25 septembre, notre action a bien fonctionné. Je pense qu'on nous a entendus. Par contre, ce dont on nous parle, c'est de mettre en place un comité d'évaluation plutôt que de s'engager directement à le mettre en place. Donc, il y a encore du travail à faire. Il va falloir expliquer toujours plus la nécessité et l'urgence de mettre en place un tel site.
Ce que vous faites avec brio. Alors, merci beaucoup, Simon Caron, agent de défense de droit pour le dossier Habitation chez Exequo. Et on vous retrouve à un moment donné.
Ben oui, merci beaucoup. À bientôt.
Merci, à bientôt. Les caméras de surveillance autorisées dans les CHSLD. Alors ça, j'en ai parlé. Je poursuis maintenant avec le bloc régional Cannabis comestible des entrepreneurs voient grand en Estrie. Avec la légalisation du cannabis au Canada prévue en juin 2018, un nouveau marché s'ouvre pour des entrepreneurs de l'Estrie. Ils s'informent sur Internet et expérimentent ensuite dans leur cuisine le créneau qui les intéresse, le cannabis comestible. Rencontre avec François Paradis de l'atelier Chocolat de Sherbrooke, Choco, trait d'union LA, L-A, accent grave, à Pignon-sur-Rue depuis 12 ans. Le copropriétaire François Paradis s'est taillé une place de choix dans le marché des chocolats fins. Amateur de ses bouchées, des clients aux prises avec des problèmes de santé l'ont abordé. Ils m'ont demandé si je ne pouvais pas les aider à peut-être enlever un peu de leur douleur en intégrant un peu de cannabis, de THC, à mes produits, dit-il. Tout de suite, il s'est senti interpellé par l'idée. Ce n'est pas tout le monde qui veut inhaler et je crois que c'est important de pouvoir remplir leurs besoins. Depuis, François Paradis teste des versions modifiées de ses chocolats. Beurre de pomme, caramel au beurre de cannabis et ganache, notamment dans lequel il ajoute de l'huile ou du beurre de cannabis. Dans son congélateur, on peut y trouver des pièces de beurre de cannabis prêtes à être utilisées, ainsi qu'un bloc avec plus d'arômes et d'huile essentielle. Parkinson, sclérose en plaques, récidive de cancer, chacun a ses besoins et il faut ajuster le dosage en conséquence. François Paradis obtient du cannabis d'un contact qui est enregistré auprès de Santé Canada. Son produit ne le vend pas, mais il le donne à ses testeurs. Le chocolatier cherche à se tracer un chemin pour être fin prêt en juin 2018, date prévue de la légalisation au Canada. La municipalité de Sainte-Fortuna a récemment inauguré les travaux d'aménagement de sa salle municipale et communautaire. Ceux-ci ont nécessité des investissements de près de 60 000 $. C'est un article trouvé dans le courrier frontenac.qc.ca. Plusieurs travaux ont permis de rendre le stationnement et les salles de bain accessibles aux personnes à mobilité réduite et de renouveler les fenêtres et les planchers de la salle municipale. Ainsi, cet espace pourra dorénavant être ouvert à tous les citoyens, peu importe leurs conditions physiques. Ce projet a été financé par le gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour l'accessibilité. Le Fonds pour l'accessibilité, d'un montant de 43 875 000 $, a permis de réaliser des travaux d'aménagement d'un stationnement sur le site du centre communautaire et de déménager et réaménager les salles de bain à l'étage de la salle communautaire. Quant à lui, le programme Nouveaux horizons pour les aînés a contribué pour un montant de 16 000 $ qui a servi à refaire les planchers et la fenestration de la salle communautaire. L'objectif de ces travaux visait à faciliter l'accès aux divers services et activités offerts à tous les citoyens. La salle communautaire et la salle municipale font partie d'un même bâtiment. Ce bâtiment étant le seul lieu de rassemblement de la communauté, il s'avérait primordial pour la municipalité de le rendre accessible. Par ce projet, notre municipalité vise l'intégration pleine et entière de tous les citoyens à notre communauté et nous voulons ainsi contribuer à briser leur isolement, de mentionner le maire Denis Fortier. L'actuel projet est l'un des principaux souhaits émis par les aînés et les familles lors de la démarche de consultation réalisée en 2014 dans le cadre de la politique municipalité amie des aînés. Je parle maintenant à Raymond Gouin, directeur général du Conseil québécois des entreprises adaptées, CQEA. Bonjour, M. Gouin.
Bonjour, madame.
Bon début de semaine. Alors, je commence avec la question primordiale. Quel est le rôle du Conseil québécois des entreprises adaptées?
Bien, en fait, notre organisation est le regroupement des entreprises adaptées du Québec. Et notre rôle est d'abord et avant tout de représenter et de défendre les intérêts de nos membres, donc des entreprises adaptées, et aussi de leur donner des services. On travaille avec les entreprises de notre réseau en matière de santé, sécurité au travail, de formation, de financement. Alors, quand nos entreprises ont besoin de ces services-là, ben on est là pour les supporter dans ces trois domaines-là et dans quelques autres, évidemment.
Quelles sont les caractéristiques d'une entreprise adaptée?
Bon, en fait, les entreprises adaptées ont la mission de créer et de maintenir des emplois adaptés, accessibles pour les personnes handicapées. Il y a 42 entreprises adaptées à travers tout le Québec qui sont réparties dans toutes les régions du Québec. Ces entreprises-là sont accréditées par le gouvernement du Québec, par Service Québec, en fait, et reçoivent donc une forme d'aide financière pour créer et maintenir des postes adaptés, accessibles pour les personnes handicapées. Leur principale responsabilité avec cette mission-là ou avec cette accréditation-là est que les entreprises doivent avoir au moins 60% de leur main-d'œuvre qui sont des personnes qui vivent avec des limitations fonctionnelles.
60%, c'est quand même assez élevé.
Oui, c'est quand même assez élevé, mais ça, l'obligation, c'est de 60%, mais dans les faits, dans l'ensemble de notre réseau, ça tourne plus autour de 70%.
Ah oui?
Les entreprises font mieux que ce qu'on leur demande de faire.
Tant mieux, c'est rare.
Bien sûr, c'est tant mieux. Ça permet, donc, il y a 5000 emplois dans l'ensemble des entreprises adaptées à travers le Québec. Et de ces 5000 emplois-là, il y en a environ 4000 qui sont occupés par des travailleurs qui vivent avec des limitations, qui travaillent à temps plein ou à temps partiel, dépendant de leur capacité ou de leur situation. Et ça fait en sorte qu'il y a un peu plus de 4600 travailleurs qui vivent avec des limitations qui œuvrent au sein des entreprises adaptées à travers le Québec.
Vous avez dit qu'il y avait 42 entreprises adaptées au Québec. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait de ces entreprises?
Bien sûr. Comme je vous disais...
Quel genre d'entreprise est-ce que vous pouvez en nommer?
Ben oui, on peut en nommer. Dépendant des régions où sont situés les gens, ils identifieront peut-être des entreprises qu'elles connaissent. Mais pour rester dans les grandes agglomérations, à Montréal, on a des entreprises dans notre réseau qui s'appellent Coforce, Axia Service, Récupération Les Marronniers, Placement Potentiel, donc qui sont dans la région de Montréal. Dans la région de Québec, on retrouve, par exemple, les ateliers du Martin Pêcheur, le groupe TAC, un petit peu plus dans Chaudière-Appalaches, sur la rive sud de Québec, la société VIA, qui est un centre de tri.
Si on va justement sur votre site Internet, on les voit toutes, ces entreprises adaptées, avec toutes leurs fonctions. Et ça regorge d'informations, ce site-là. Quelles sont les ressources qu'on y trouve, à part, bon, de connaître les entreprises adaptées? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, ce site-là?
Bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Ce qui est important de savoir sur les entreprises adaptées, c'est peut-être les secteurs d'activité dans lesquels les entreprises œuvrent qui sont les plus importants. Il y a des entreprises adaptées qui œuvrent dans toutes sortes de choses, mais les principaux secteurs d'activité dans notre réseau, ce sont notamment l'entretien ménager. Donc, plusieurs offrent dans ce, travaillent dans ce secteur d'activité-là. La gestion des matières résiduelles, plusieurs centres de tri à travers le Québec sont des entreprises adaptées. On a aussi des entreprises qui œuvrent beaucoup dans le domaine de la manutention et l'emballage, de la sous-traitance industrielle, la couture industrielle, l'imprimerie. Alors, on en a qui œuvrent dans, dans plein de secteurs d'activité.
Et si quelqu'un... Oui, allez-y.
Bien, sur notre site Internet, pour répondre à votre question, il y a effectivement beaucoup d'informations sur où sont les entreprises, qu'est-ce qu'elles font, surtout quel genre de produits et services on peut acheter dans une entreprise adaptée. Parce que nous, notre mandat, c'est de promouvoir l'offre de services des entreprises. Alors, on souhaite que les acheteurs potentiels qui ont besoin de produits et de services puissent aller trouver ce qu'elles ont besoin par l'entremise de notre site Internet. Et il y a aussi toute notre panoplie de formations. Donc, toutes les formations qu'on offre, particulièrement aux travailleurs des entreprises adaptées, sont aussi souvent accessibles à des gens de l'externe. Mm-hmm. Alors, quand on a des places disponibles dans nos cohortes, bien, les formations sont offertes. Mais s'il y a des gens qui ont des besoins, ils peuvent jeter un coup d'œil à notre offre de formation et nous lancer des messages sur leurs intérêts.
Alors, comment on fait pour vous lancer des messages? On communique avec vous par téléphone, j'imagine?
Bien sûr, par téléphone ou par l'entremise de notre site Internet, vous pouvez communiquer avec nous. Écoutez, notre offre de service, comme je disais, est assez exhaustive sur notre site Internet. Mais les gens peuvent communiquer par courriel ou par numéro de téléphone, par téléphone, qu'ils retrouveront sur notre site Internet.
Parfait. Le site Internet, cqea.ca.
Exactement.
Merci beaucoup, M. Gouin, pour cette entrevue. Au plaisir.
Ça m'a fait plaisir, madame. Au revoir.
Une canne blanche électronique pour les personnes non-voyantes sur le site signoractu.com. Alors que s'est tenue le 15 octobre 2017 la Journée internationale de la canne blanche, la Fondation Vision, spécialisée dans la question de la déficience visuelle, a présenté sa canne blanche électronique Tom Pouce, qui permet, grâce à ses capteurs infrarouges et laser, d'anticiper les obstacles mobiles et immobiles et les signale à son utilisateur sous forme de vibrations. Rappelons qu'en France, près de 2 millions de personnes sont aveugles ou malvoyantes et que selon l'Organisation mondiale de la santé, le nombre de déficients visuels serait doublé d'ici 2050, notamment compte tenu du vieillissement des populations dans le monde. Dans ce contexte, la Fondation Vision, au plus près des personnes atteintes de déficiences visuelles sévères, étudie et développe des solutions technologiques qui leur permettent de se déplacer de façon plus fluide et plus sécurisée, réduisant ainsi le stress et les risques de choc. L'un de ces derniers produits, la canne électronique Tom Pouce. Comment ça fonctionne? Un petit boîtier, baptisé Tom Pouce, se fixe sur n'importe quelle canne blanche, la transformant immédiatement en canne électronique. Ensuite, il permet de détecter les obstacles se situant de 1 mètre à 12 mètres vers l'avant et en hauteur jusqu'à 2,50 mètres, un tout nouveau produit qui devrait renforcer l'autonomie des aveugles. À noter que le coût de cette canne Tom Pouce s'élève à 5 000 €, soit environ 7 400 $. Dans ces entreprises françaises, on aide les salariés à aider leurs proches sur ouest-france.fr. C'est notamment le cas de la Société Générale à Nantes. En partenariat avec la Mutualité française, la banque a proposé à ses salariés aidants un cycle d'ateliers pour communiquer autrement, découvrir ses atouts. Camille de Cadenet est assistante sociale à la Société Générale à Nantes. Elle reçoit les salariés qui en font la demande pour évoquer leurs problèmes personnels ou professionnels. L'an passé, elle rencontre Aline Vance, responsable de projet prévention et promotion santé à la Mutualité française Pays de la Loire, qui anime des ateliers à destination des aidants actifs en activité professionnelle pour leur permettre de se maintenir en santé. Pas seulement pour ne pas être malade, mais aussi pour se sentir bien dans ses conditions de travail, ses loisirs, son environnement, précise cette dernière. Un cycle de 4 séances a donc été proposé en début d'année aux salariés, sur leur lieu de travail, à la pause de midi. 8 d'entre eux y ont participé. 6 femmes et 2 hommes de 45 ans en moyenne. 6 d'entre eux s'occupent d'un parent de plus de 90 ans. Les deux autres d'un enfant et d'un neveu, détaille la responsable de projet. L'une des caractéristiques communes chez les aidants, c'est le fait de s'oublier. Le sentiment de culpabilité était présent, dit Camille de Cannet. Dans ces ateliers, nous essayons donc de transmettre l'idée selon laquelle plus ils seront bien en s'accordant du temps pour eux, en faisant du sport ou autre, plus ils feront du bien à leur entourage, souligne Aline Vance. Et on termine avec des rafales, une belle rafale. C'est avec grand plaisir que TELUS, en collaboration avec Regard Action, remet un don de 1 850 $ à Vues et Voix. En effet, entre le 1er mai et le 30 septembre dernier, pour chaque optométriste ou opticien du Québec s'inscrivant à la solution réclamation de TELUS Santé, TELUS s'est engagé à verser une somme de 25 $ à l'organisme à but non lucratif. Vues et Voix est producteur de livres audio adaptés et diffuseur d'émissions radiophoniques, lesquels sont destinés aux personnes ayant une limitation visuelle, motrice ou autre. Le montant amassé permettra ainsi l'enregistrement de 3 livres audio pour les jeunes ayant des troubles d'apprentissage. Le coût moyen d'un livre audio pour les jeunes est de 500 $. Au nom de TELUS, Regard Action et Vues et Voix, nous tenons à remercier du fond du cœur les optométristes et opticiens pour leur participation à cette campagne. Et c'est signé Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix. INCA est heureux de contribuer au programme paralympien recherché du Comité paralympique canadien. Paralympien recherché sera à Vancouver le dimanche 22 octobre et à Toronto le dimanche 26 novembre. Paralympien recherché est un excitant programme conçu pour identifier les futurs athlètes paralympiques potentiels. C'est une activité d'une journée qui offre aux personnes ayant un handicap la chance de tester leurs habiletés et de découvrir quels sports paralympiques leur conviennent le mieux. L'activité est ouverte aux personnes ayant un handicap physique ou une déficience visuelle de 14 à 35 ans. L'inscription est gratuite et peut se faire à paralympique.ca/paralympien, trait d'union, recherche au pluriel. C'est tout pour les paractualités de ce lundi 16 octobre 2017. Merci à mes invités Raymond Gouin et Simon Caron. Merci à mon équipe. À la recherche, Anne-Laure Janson et à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. Ici Hélène Denis, merci à vous d'avoir été là.